Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les Bonnes Choses qui aujourd'hui célèbrent la cuisine de la consolation, titre d'un très beau livre de Stéphanie Schwarzbrod, édité par la maison Actes Sud. Stéphanie Schwarzbrod est autrice et comédienne. On lui doit en 2019 La cuisine de l'exil, paru chez le même éditeur, et un spectacle sacré, sucré, salé, inspiré d'un de ses livres qui a tourné pendant 10 ans sur scène.
L'idée de manger à sa place des choses qu'il aimait me réconfortait. Je connaissais la saveur de ses aliments, le plaisir qu'il en tirait, et j'imaginais que par quelque étrange principe de vase communicant entre mort et vivant, il pourrait reprendre, grâce à cette collation, des forces pour la suite de son voyage. Manger serait aussi une manière de tromper le vide qui prenait lentement place en moi et dont j'avais à peine commencé à prendre la mesure sur le chemin qui me ramenait à la maison. Anne Poli, avant que j'oublie.
Merci pour cette lecture de l'exergue de votre ouvrage, Stéphanie Schwarzbrod, et bonjour à vous.
Bonjour.
Ce livre est le 8e que vous écrivez sur la cuisine. Enfin, ouais. C'est la cuisine. C'est pas seulement la cuisine, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est la cuisine comme lien social, c'est la cuisine comme lien intime, affectif. D'où vient cet appétit pour la nourriture et cette appétence pour les livres que vous écrivez sur la cuisine et ses liens sociaux?
Alors, la cuisine, c'est ma mère, qui était une grande cuisinière et qui m'a vraiment transmis ça. Et les livres de cuisine, au départ, ça a été vraiment un hasard. Je me suis retrouvée à écrire un livre de cuisine avec ma sœur Delphine, La cuisine des enfants, chez Librio, parce qu'elle était enceinte et qu'elle devait rendre le livre en même temps qu'elle devait accoucher, donc c'était mieux qu'on l'écrive à deux. Et puis j'y ai pris goût, et en fait moi ce qui m'a toujours intéressée, c'était de raconter des histoires, enfin c'était de trouver un sujet et de développer quelque chose autour de la cuisine. Donc c'est vrai que j'ai eu très envie d'explorer la cuisine et la foi, et la cuisine et l'exil, et puis la cuisine et la mort, ça m'est venu d'un coup.
La cuisine et la mort, oui, parce que c'est d'abord un livre très personnel, dédié à votre mère. Mm-hmm. On ouvre le livre et dès la dédicace, on est saisi par l'émotion, faut bien le dire. Vous écrivez « Ma mère me nourrit dans la cuisine, au milieu de mes sœurs qui se chamaillent. Il y a du bruit, de la vie, l'atmosphère est joyeuse, c'est dimanche. Nous avons l'appartement tout à nous, personne ne viendra sonner à la porte, personne ne nous dérangera. Nous pouvons faire autant de bruit que nous voulons, courir dans le couloir, laisser les portes ouvertes et ma mère peut cuisiner ce qu'elle veut sans craindre que les odeurs n'envahissent tout l'appartement et n'incommodent les narines des patients du cabinet dentaire de mon père. Je sens les effluves du poulet à l'estragon qui mijote dans la vieille cocotte en fonte noire, mais aussi une odeur de pomme caramélisée. Ma mère prépare une tarte tatin. Je la vois chauffer et faire chauffer un vieux fer en fonte au-dessus des flammes de la gazinière, puis sortir la tarte du four, la renverser sur un plat, déposer celui-ci sur le rebord de la fenêtre qui donne sur la cour, puis mettre le fer brûlant directement sur les pommes. C'est ces souvenirs que vous racontez, c'est vraiment effectivement un récit, Stéphanie Schwarzbrod, que vous racontez parce que votre mère était une grande cuisinière et elle est comme une présence fantôme dans ce livre, qui est d'ailleurs émaillé de souvenirs, mais aussi de recettes de votre mère. Il y a la tarte tatin, les quenelles, la terrine de courgette au basilic, le navarin d'agneau, les lasagnes, le pudding de Bourgogne, la tarte au citron. Votre mère est décédée en 2019. Est-ce que raviver ses souvenirs, et même peut-être parfois refaire ses plats, les manger, c'est douloureux ou c'est réconfortant?
La cuisine, c'est toujours réconfortant, c'est jamais douloureux. Donc justement, la cuisine, c'est un lien, c'est vraiment un lien entre les vivants et les morts, et à travers une odeur, à travers un goût, tout à coup la personne est là, et c'est une manière justement d'être un peu en contact. Et puis, oui, en fait, c'est vrai que c'est en voyant un spectacle qui s'appelle « Sacre » de Lorraine de Sagazon, qui racontait que une femme qui était atteinte d'un cancer était très bonne pour faire des raviolis et elle avait fait beaucoup de raviolis avant son décès et elle les avait congelés Et ses amis, tous les ans, se réunissaient et ils décongelaient un sachet de raviolis. Et c'est en entendant cette histoire que j'ai eu envie. Tout à coup, je me suis dit, mais voilà, tiens, c'est ça le sujet du prochain livre possible. Et c'est après qu'en fait, ma mère est apparue. Ça a été dans ce sens-là.
C'était pas le point de départ.
Oui. Et c'est après que tout à coup, je me suis dit, mais oui, la cuisine, la mort, c'est ma mère. Enfin, les deux étaient liés très fort à ce moment-là.
C'est un livre personnel et en même temps, c'est un livre que vous offrez aux autres. Mm-hmm. Et de plein de façons. D'abord, vous l'offrez au lecteur, à la lectrice que nous sommes. Mais aussi parce que ça n'est pas du tout un livre théorique, hein. C'est un livre qui raconte. Mais c'est aussi un livre qui est le fruit d'entretiens que vous avez réalisé. Comme dans La cuisine de l'exil, d'ailleurs. Oui. Vous avez rencontré 25, je crois.
Oui.
D'hommes et de femmes qui sont venus de partout et qui livrent leurs témoignages avec les recettes qui les accompagnent. Et alors, on fait un tour du monde, à vrai dire, hein. Parce qu'on a la Croatie, le Japon, l'Italie, le Mexique, Haïti, Vietnam, Corée, Moldavie, Sénégal, Inde, Pérou, je ne les cite pas tous,
Iran, bien sûr.
C'est un lien avec la cuisine de l'exil, dans lequel justement 24 hommes et femmes déracinés racontaient la cuisine de chez eux.
Ben c'est vrai que moi je suis pas une théoricienne, j'ai pas fait d'études, enfin sauf je fais le conservatoire, mais j'ai pas fait d'études littéraires. Donc moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires. J'aime pas trop les choses théoriques, ça m'ennuie très vite. Donc j'aime bien que les gens partent de leur vie, partent de leurs souvenirs. Et puis moi après je faisais quand même pas mal de recherches, donc pour expliquer certaines choses, pour rajouter certaines choses qui avaient pas forcément été dites ou expliquer. Mais ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens.
Et est-ce que ces gens vous disent des choses qui sont similaires les unes aux autres? Est-ce que de tous ces témoignages qui viennent de partout, évidemment, il y a la France aussi,
Il
y a Dorian qui organise des célébrations funéraires, il y a Erika qui vous parle de la Toussaint en Guadeloupe, bien sûr. Mais est-ce que de tous ces témoignages, il y a des choses communes qui ressortent dans le lien que font les personnes que vous avez rencontrées entre le vivant et le mort via la cuisine?
Ben, je pense que le commun, c'est le partage. Je veux dire, la cuisine a vraiment un sens avec le lien avec les morts. C'est parce que c'est une cuisine du partage. C'est vrai que c'est Luna Kyung qui, dans son témoignage, me disait, mais si je tricote, enfin, je sais plus si elle dit tricoter un pull, enfin, pour mon père, bon, ben, ça n'aurait pas de sens, mais la cuisine, ça a du sens parce que je vais la partager. Pas qu'avec lui, mais aussi avec ceux avec qui je vis. Donc c'est vrai que je pense que le lien entre tous, je pense que c'est ça, c'est le partage.
Et de partout, on cherche quoi à travers la nourriture quand on fait des rites funéraires? Est-ce que, par exemple, on cherche à remplir un vide? À combler une absence?
À retrouver quelqu'un d'une certaine manière, je dirais plutôt.
C'est pour ça que votre mère est là aussi? Chercher à la retrouver à travers ses...
Oui, après, je passe pas ma vie à chercher à la retrouver.
Non, je parle du livre.
En tout cas, dans le livre, oui. Ben, le livre, en fait, je me suis rendu compte en l'écrivant, mais là encore, c'était pas un postulat de départ, mais en l'écrivant, c'était comme un chemin initiatique de deuil. De travail de deuil autour de sa disparition.
Mais qu'est-ce que vous apprend, par exemple, le fait d'aller rencontrer des gens de partout comme ça? Est-ce qu'il y a des pays où il existe un lien particulièrement fort entre la nourriture et les rites de mort pour célébrer la vie derrière, hein?
Il y a des pays où, comme le Japon ou le Mexique, où il y a vraiment la fête des morts et où tout à coup, le jour de la fête des morts, les morts reviennent et on les appelle et on leur fait les plats qu'ils aiment bien. Et donc c'est aussi une façon où je me souviens de Noa qui me dit qu'à chaque anniversaire de ses morts, elle fait un dîner avec ses enfants et elle prépare les plats préférés aussi au Pérou. Elle me racontait qu'à l'anniversaire de sa mère qui était morte, avec ses sœurs, elle faisait 5 plats. Ses 5 plats préférés, mais aussi un plat que sa mère ne connaissait pas pour lui faire goûter. Donc, quelque part, manger, c'était aussi une manière de faire goûter à sa mère. Elle me disait, oh là là, depuis le temps, j'avais jamais goûté le foie gras. J'étais sûre que je détesterais, mais bon, j'ai fait un effort, j'ai mangé du foie gras. Ça y est, c'est fait, j'ai détesté. Mais j'ai fait goûter à ma mère. Ben voilà, bon, c'est drôle de chose, mais c'est intéressant.
Donc la cuisine de la consolation, c'est la façon dont les rites culinaires permettent de recréer un lien
voilà.
avec ce qui n'est plus,
voilà.
quel qu'il soit. Ça peut être aussi des pays en guerre. Hein.
Oui, oui.
Là, justement, vous, qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien de ces plats qui tiennent chaud et qui réconfortent? D'ailleurs, il y a l'Iran, l'Afghanistan, l'Arménie, le Liban. On a d'autres pays en guerre en ce moment en tête, évidemment.
Mais par exemple, c'est vrai que la cuisine, c'est une madeleine. Donc c'est vraiment la Madeleine de Proust. Et bah justement, quand on parle d'odeur, pareil, il y a un témoin qui raconte que c'est la fête des morts, donc il prépare le plat d'un ami qui est mort. Et tout à coup, il rentre dans sa cuisine et il se dit mais je suis chez lui, parce qu'il sent l'odeur qu'il sentait toujours quand il arrivait chez lui. Et donc je pense qu'à travers la cuisine, c'est vrai que parfois on sent une odeur et tout à coup on est replacé 50 ans en arrière dans un endroit qu'on adorait et tout ça. Et ben en fait la cuisine c'est pareil, tout à coup on goûte quelque chose et oui, tout revient. Donc c'est une façon de faire revenir.
On entend là, c'est une fête japonaise. Vous avez évoqué le Japon. Et on voulait demander à une deuxième invitée qui nous a rejoint le lien qui existe entre la nourriture et la mort au Japon par l'intermédiaire de cette fête, qui est une fête estivale, la fête Obon, qui se passe en été. Et il se trouve que cette deuxième invitée vient de publier un livre qui s'appelle L'Appel des Odeurs. Alors entre le Japon d'un côté et L'Appel des Odeurs dont on a parlé avec cette présence fantomatique des personnes qui ont disparu mais qui sont encore là, nous avons le plaisir d'accueillir Ryoko Sekiguchi. Bonjour Ryoko.
Bonjour.
Vous êtes autrice de livres de cuisine, vous avez écrit vous-même sur les liens entre les vivants et les morts à travers la cuisine dans Manger Fantôme, paru chez Argol en 2012. Vous êtes également présente dans La Cuisine de la Consolation de Stéphanie Schwarzbrod qui vous a lu et vous venez donc de faire paraître L'Appel des Odeurs chez POL. Cette fête qu'on entend au Japon, cette fête Obon, signifie quoi? Le retour ou la présence des morts dans la vie en permanence? Les fantômes sont là?
Alors, pas en permanence, mais c'est une sorte de moi j'appelle les vacances d'été des morts, qui pendant une semaine peuvent revenir. Et donc, ce n'est pas seulement les gens qu'on a connus de la famille, mais aussi les ancêtres, en fait, en général. Donc, ce que je trouve formidable de la cuisine, en fait, ce n'est pas seulement quand on mange un plat, par exemple, de notre grand-mère, tout revient, mais aussi, par exemple, les ancêtres qu'on n'a pas connus, on peut faire revenir, on peut les convoquer, on peut les inviter aussi. Et ce que vous avez dit, en fait, sur le partage, moi, ce qui me semble très important, c'est que, à la fois, la cuisine, bien sûr, est un partage, mais c'est aussi, surtout, les mots qui sont là pour que ces plats deviennent partageables et partagés, parce que en fait c'est tous ces témoignages, si vous ne racontez pas dans votre livre, resterait en fait en vue, alors que comme ça, en forme de récit publié sous forme de livre, on peut les lire et on peut les imaginer. Et en fait je pense que c'est ça qui est à la fois la force des mots lorsque qui sont liés à la cuisine.
L'importance des mots que vous racontez, justement.
Oui. Hein, Stéphanie Schwarzbrod. L'importance de la transmission. Parce que c'est vrai que pendant les fêtes des morts, il y a la photo des ancêtres et tout ça. Et ça permet aussi aux gens de raconter à leurs enfants qui étaient leurs ancêtres et ce qu'ils faisaient et tout ça. Donc c'est une manière de transmettre aussi à ces enfants.
Oui, exactement. Je pense que si on est là juste pour partager, aimer, enfin, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais il faudrait que ça soit en quelque sorte un moyen, un point de départ pour qu'on raconte, oui, alors, ton arrière-grand-mère, elle était comme ça, voilà, et comme ça que, avec les goûts et les mots qui sont liés, et on visualise, on sent l'absence d'une autre manière.
Mmh. On peut retrouver Ryoko Sekiguchi, vous l'avez éprouvé, on peut retrouver quelqu'un à travers la nourriture?
Je pense. En fait, même dans ce livre, L'appel des odeurs, enfin bien sûr, parler des odeurs veut dire aussi à parler des goûts, en fait, les lier aux odeurs. Et donc il y a un récit dans lequel le personnage goûte les prunes salées de son arrière-grand-mère qui est décédée il y a 40 ans. Et elle le goûte avec sa mère et la figure de son grand arrière-grand-mère que qu'elle n'a vu qu'une seule fois lui revient excuser le souvenir réel ou non. Ben en fait plus non et peut-être vrai. Mmh. Donc et c'est important aussi dans ce cas-là que ça soit en fait avec sa mère que cette fille goûte ses prunes salées.
Ça correspond à des choses qu'on vous a racontées, Stéphanie Schwarzbrod? Des récits qu'on vous a fait de particuliers? Il y en a beaucoup, hein, il y en a 25, donc effectivement, il faut convoquer les souvenirs. Mais je pense à cette idée que la cuisine de fête, je ne sais pas si c'est la cuisine d'ailleurs ou la commensalité qui peut apaiser la douleur par le fait que la circulation entre les vivants et les morts se fait mieux, justement. Oui. Voilà, t'as mis à travers d'un plat, ouais. L'odeur, c'est un peu ça l'idée.
Oui, et puis aussi, en fait, souvent, par exemple, les recettes de sa grand-mère, on dit toujours, ouais, c'est pas tout à fait comme faisait sa mère, notre grand-mère. Et en fait, c'est important qu'on dise ça. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on peut faire comme notre grand-mère, ce n'est pas la peine qu'elle existe dans notre cœur. Il faudrait, comme ça, en fait, comme un talisman, continuer à dire que ce n'est pas comme notre grand-mère et à la fois c'est une sorte une façon de dire à l'au-delà mamie on t'aime encore. Mmh. Et je pense que c'est important, à la fois il y a une sorte de présence qui revient mais on ressent l'absence et en fait ce sont ces doux-là qui nous visitent.
Mmh. Stéphanie Schwarzbrod.
Ben ça console effectivement. Enfin c'est vraiment le
réellement.
Oui, réellement. Enfin, c'est vrai que c'est étrange parce que moi, je crois que j'ai mis un an et demi à écrire ce livre et c'est vrai que petit à petit, je me sentais consolée à force de rencontrer tous ces gens qui me racontaient tout ce qu'ils faisaient et la manière dont ils le faisaient. Et je trouvais ça tellement beau et oui, ça me consolait.
Vous parlez aussi beaucoup de l'importance des rituels à travers toutes les cultures, tous les pays, même des offrandes aux morts. Mm. Les offrandes aux morts qui sont pas toujours des fruits, qui sont par exemple en Europe, c'est souvent des pains, des crêpes. On est dans la période de la Chandeleur, donc des crêpes, des gâteaux, du miel, de la bière. Et vous faites une remarque que je trouve très intéressante sur le fait que c'est souvent le résultat d'un procédé qui conjugue des éléments, des ferments et le travail des hommes. Et parfois même, quand c'est au-delà de l'Europe, c'est souvent des recettes qui sont longues et complexes. Mmh. Et que ça a du sens. Ouais. Parce que c'est le lien avec un défunt ou une défunte, mais plus largement, c'est le lien avec ce qui est perdu. Et le monde disparu, qu'une odeur, une saveur vient raviver, a besoin d'un travail humain. C'est pas seulement un fruit qu'on pose naturel, là, cru, qu'on pose quelque part.
Bah, il y a le côté de couper tout petit, et effectivement, qui rend le travail très long, très laborieux, parfois fastidieux, mais qui fait que, à la fois, ça prend du temps, et à la fois, l'aliment se transforme, devient étrangement à la fois plus digeste, mais il perd un peu de son aspect, en tout cas. Il y a la fermentation aussi, qui a quelque chose qui est vraiment en lien avec la mort. La décomposition et les aliments qui se fermentent. Et donc, oui, c'est vraiment très intéressant.
Mais on voit que c'est vraiment la cuisine du réconfort. Aujourd'hui, Ryoko Sekiguchi, il y a une cuisine qui est très tendance, dont on parle beaucoup, qui est la comfort food. Quel lien pouvez-vous faire entre cette cuisine réconfortante de la consolation, la façon dont l'entend Stéphanie Schwarzbrod, et cette comfort food, ce besoin qu'on a d'aller chercher une cuisine qui est réconfortante. D'ailleurs, souvent, la cuisine réconfortante, elle est synonyme de nostalgie. Donc, on retrouve ces thèmes-là qui traversent.
Oui, c'est vrai. Mais je pense, en fait, j'ai une petite critique à faire sur ce cuisine réconfortante, parce que parfois, on a l'impression de d'enfermer la cuisine réconfortante dans ces recettes seulement traditionnelles qui ont été faites, refaites, alors qu'on peut créer, en fait, notre nouvelle recette réconfortante qui est fédératrice, qui est réunie, en fait, qui serait réconfortante pour les années à venir. En fait, je pense qu'il manque un peu d'imagination, enfin, dans ce qu'on raconte dans les plats réconfortants.
C'est toujours lié au passé. Vous aimeriez que ce soit un peu plus porté sur l'avenir. D'ailleurs, c'est lié au passé, à la nostalgie. Quand votre mère est décédée, Stéphanie Schwarzbrod, vous êtes allée manger des cuisses de grenouille avec votre père. Ça avait un sens particulier, ça.
Ben, il se trouve que, en fait, il m'a emmenée au restaurant. De toute façon, on n'avait pas vraiment, enfin, là, pour le coup, il y avait pas grand chose à manger à la maison, puis il avait peut-être pas envie de faire la cuisine. Et il se trouve que effectivement les cuisses de grenouille, c'était un restaurant qui en faisait, et que moi, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Alors peut-être plus lié à mon père, mais enfin, en tout cas, que je mangeais dans un endroit à Saint-Martin-du-Riage, et donc, nous emmenait au restaurant. Et puis là, c'était pas le même restaurant, mais effectivement j'en ai mangé trop parce que je suis très gourmande, je peux jamais m'arrêter. Mais après, j'avais un peu mal au cœur.
Est-ce que c'est cela pour vous? Est-ce que c'est effectivement la nostalgie, le fait que on a besoin d'aller retrouver des choses? Vous parliez de la Madeleine. Dans la Madeleine, il y a vraiment cette idée de la nostalgie. Quand on convoque une odeur, une saveur, un savoir-faire qu'on ne retrouvera jamais, il y a cette nostalgie. Est-ce que c'est partout, avec les personnes que vous avez rencontrées, vous vous rendez compte que la cuisine de la consolation, elle est quand même avant tout nostalgique?
Pas forcément, parce que parfois il peut y avoir beaucoup de joie. Je pense au Mexique, par exemple, avec ce pipolo qui est un plat totalement incroyable.
Racontez-nous, c'est quoi le pipolo?
Alors le pipolo, c'est un plat que préparent les Mayas, essentiellement dans le Yucatan. Et c'est une sorte de tourte de maïs au poulet avec... de la quiote qui est rouge, donc qui représente le sang, et le poulet c'est la chair. La tourte est faite avec du maïs, donc ça représente l'homme, parce qu'on dit que chez les Mayas l'homme c'est le maïs, enfin et c'est cuit dans des feuilles de bananier, donc qui représente un peu comme le linceul, sous la terre le jour même. Il faut même qu'ils fassent les courses, tout le village se retrouve à 4h du matin au marché du village. L'animal doit être tué ce jour-là. Les enfants font la queue chez le meunier pour récupérer la farine de maïs et tout ça, et il cuit 4 heures, donc enterré. C'est la tourte est vraiment c'est vraiment la le symbole de l'enterrement. Et en même temps, il y a plein de gâteaux, il y a les têtes de mort en sucre, il y a quelque chose de très joyeux avec tous les villageois qui vont d'une maison à une autre, et les enfants qui piquent les plein de choses sur l'autel. Mais c'est autorisé, les adultes sont d'accord. Donc il y a aussi quand même quelque chose d'assez joyeux dans ces rituels.
On retrouve dans la fête du Obon.
Bien sûr. On prépare plein de choses. Enfin, notamment, son viande. C'est parce que bon, mais on essaie de créer de servir des plats à la fois que les nos ancêtres aimaient et que nous on aime aussi, comme tout à l'heure. Vous avez raconté enfin des nouveaux plats. Bien sûr, c'est vrai. Il y a des échanges en fait qui dépassent notre temporalité mortels. Et je pense que c'est ça qui est aussi un peu libérateur, parce que je pense qu'à la fois la cuisine, mais c'est aussi enfin les recettes, les mots traversent notre temporalité.
Est-ce qu'il y a des mets, des plats, des produits, des aliments particuliers qui sont spécifiquement utilisés dans les plats de deuil un peu partout à travers le monde? Stéphanie Schwarzbrod, après avoir fait quand même un long tour du monde, vous parlez par exemple beaucoup de la lentille. La lentille revient.
La lentille, oui, mais elle plutôt dans le judaïsme.
Ouais.
Parce qu'elle n'a pas de fente. Et donc, c'est une manière de dire que devant le deuil, il ne faut pas parler. Vaut mieux se taire. Donc, c'est vrai que ça m'avait beaucoup frappée quand on m'avait raconté ça. Bah, y a le blé avec la Moldavie, donc, qui reprend aussi toute la symbolique du blé du christianisme, du blé jeté en terre qui...
Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de lien entre vivant et mort via la cuisine sans parler du sacré. Ça revient partout. Les oui. religions sont évidemment partout. Et vous les avez étudiées. Dans votre tour du monde, on voit bien, effectivement, ce lien entre cuisine et sacré. Oui. Pour terminer, j'aimerais bien que toutes les deux, vous nous parliez d'une recette pour vous, Stéphanie Schwarzbrot, et d'un condiment qui est un condiment. Alors, c'est pas complètement comfort food, dans le sens où vous l'avez développé tout à l'heure, Ryoko Sekiguchi, mais c'est un condiment que vous avez conçu pour les épices Rollinger, qui malgré tout est réconfortant, qu'on peut utiliser non seulement rite dans un rite funéraire si on le souhaite, mais surtout tous les jours, pour se faire du bien, puisque il a pour nom, en français, le goût du bien-être. Il s'appelle le Yakumi voyageur.
Oui, alors en fait, c'est une sorte d'invention de comfort food, hein, je peux le dire, hein, parce que ça a été créé en fait pour... moi, je souhaitais créer quelque chose à la fois littéraire, en fait, et aussi on veut... je dirais pas politique, mais un peu lié à social, c'est-à-dire que j'ai lu un article en japonais qui dit que en cas de catastrophe naturelle, par exemple après le séisme, les gens enfin qui se réfugient et qui sont obligés de manger en fait de la nourriture enfin toujours pareille en attendant voilà et en fait ce qui est important dans ce cas-là c'est aussi de donner enfin de d'offrir les épices en fait pour qu'on puisse changer le goût, qu'on puisse varier le goût. Et donc, par exemple, les piments shitimi ou bien des petites choses, en fait, qui n'apportent pas de calories, mais qui nourrissent l'âme et qui, en fait, du coup, consolent. Mais je voulais faire quelque chose comme ça avec Mathilde.
Mathilde Rollinger.
Mathilde Rollinger. Et puis, à la fois, en fait, sans sel et sucre ajouté, parce que il se trouve que mon père donc a un problème de cœur. Et donc, pour des gens qui sont des par exemple, au régime alimentaire, qui puisse mettre et varier le goût, et surtout, en fait, par exemple, dans les cantines, dans un avion, un plateau repas, qui est fait pour, en fait, un repas non personnel, mais personnalisé, vous fait apporter toujours, et c'est pour ça que c'est un voyageur.
Ouais, c'est un condiment, le Yakumi voyageur, c'est un condiment japonais, donc, à base de sésame, algues, gingembre, pruneau séché, sumac, soja, romarin, et diverses épices, le goût du bien-être. On en met un peu partout, on saupoudre sur tous les plats, ça fait beaucoup de bien. Ça console, ça réconforte, et en plus c'est sain, manifestement. Merci Ryoko Sekiguchi.
Ça fait envie.
Ça fait envie, et vous nous avez offert donc la recette de votre mère, du bœuf carotte. Quand je dis offert, c'est que nous l'avons mise sur le site internet des Bonnes Choses, Stéphanie Schwarzbrot. Un grand merci à vous. Est-ce qu'à la fin, ce livre vous a fait du bien, alors même que vous vous souvenez du livre de Stieg Dagerman, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » ?
Oui, oui, ça m'a fait du bien.
Ben, vous avez bien fait de l'écrire. Et nous de le lire, La cuisine de la consolation, récits et recettes. C'est édité chez Actes Sud. L'appel des odeurs, Ryoko Sekiguchi, de toutes ces odeurs qui font du bien, qui réconfortent, qui consolent parfois aussi. L'appel des odeurs, c'est édité chez POL. Les bonnes choses s'écoutent quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Juliette Moellic à la coordination, à la préparation, Colin Gruel à la réalisation et aujourd'hui Dimitri Paz à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.